Janko Veselinovitch, Les Frères, 1886. Rien ne vaut la concorde et la bonne intelligence. Un homme raisonnable qui sait agencer sa maison de manière à nourrir le chat en ménageant la chandelle, voilà un homme qui connaît le bonheur, pourvu que Dieu lui donne la santé. Quiconque demande davantage sur cette terre est un imbécile. Et l'on connaissait jadis le bonheur dans la maison des Pantelitch. On l'y connaît encore aujourd'hui seulement, il fut un temps où le malheur avait pris sa place. Je vais vous conter cette histoire. Une des grandes adrougades jadis se trouve aujourd'hui entre les mains de deux frères, Marco et Marinko. Leurs ancêtres s'établirent à M il y a bien longtemps. Ils venaient de l'Herzégovine. L'arrière-grand-père de ces Pantelitch combattit les Turcs avec Karageorges et Miloš. C'était au dire des anciens un héros comme les femmes n'en mettent pas souvent au monde. Dans une bataille, il tua un chef turc et conquit du même coup un merveilleux sabre à gaine de velours et à poignée dorée, ainsi que deux pistolets du plus fin argent. Aujourd'hui encore, ce trophée est le plus bel ornement de la maison des Pantelitch. Le vieux eut quatre fils. En mourant, il leur fit promettre de ne se séparer jamais et de recommander à leurs enfants de ne point se séparer non plus. Les fils obéirent au dernier ordre du père et le transmirent à leurs descendants. La maison s'était cependant accrue. Elle comptait une trentaine d'individus mâles, et avec cela, de la terre dans les endroits les mieux exposés, tout un domaine. Quand on regardait dans la cour, ce n'était que maisonnettes adossées à des maisonnettes, et toutes si blanches qu'on les eût dites couvertes de perles. Oh, je ne parle pas de l'argent, car on ne peut se figurer tant de maisons et tant de biens sans argent. Le chef de famille dirigeait le tout. Chaque individu avait sa tâche et l'accomplissait. Mais le choléra commença à faire rage et il déclina les Pantelitch tout comme les autres. Que faire contre la volonté de Dieu? Marco et Marinko survécurent seuls avec quelques femmes. Selon nos habitudes de village, Marco, comme l'aîné, devint le chef de famille. Les deux frères ne pouvaient à eux seuls suffire pour un si grand bien. Ils la fermèrent aux voisins qui leur donnaient un tiers de la récolte. Ils ne gardèrent que quelques chats autour de la maison, simplement pour s'occuper. Mais, à vrai dire, Marinko vaquait seul aux travaux de culture. Marco, lui, se bornait à commander et à faire un peu de commerce. C'était un de ces hommes qui ne se mettent guère en souci. Il ne s'occupait jamais de la moindre chose tant qu'il n'y était point forcé. « Mais que je vais voir là-dedans » avait-il l'habitude de dire. Gros et solide, fort grand, bien tourné, une figure ronde, de grands sourcils et une longue barbe, fier, d'allure et silencieux, tel était l'homme. Il fumait tout le long du jour sans dire mot. Il était, comment dirais-je, d'un heureux naturel. Mais parfois il avait des lubies, et alors il brisait tout ce qui lui tombait sous la main. Quelques cris ou quelques bouffées de sa pipe le faisaient revenir à lui-même. C'était un rude calculateur. Quand il avait vendu des bœufs ou des porcs, il comptait de tête comme ça, tout simplement, et disait au marchand « Ça fait tant et tant !» Jamais ils n'ont pu le tromper. Ils ne voulaient rien savoir de leurs florins et de leurs billets de banque. « Paye-moi en ducat, frère, disait-il. Et si tu veux du papier, je t'en achèterai à Shabbat, autant que ça te plaira. » Et avec tout cela, mon vieux, il ne savait ni lire ni écrire. Nous autres paysans, tu sais, nous avons peur, quelquefois, de manquer notre vente. Quand les Allemands arrivent au village et qu'ils crient dans leur jargon « Schwein, Schwein !» des cochons. Mais Marco, lui, ne se mettait pas en peine. Il disait tout simplement, Oh, vous pouvez prendre pour temps, si ça vous plaît, bon. Si vous n'en voulez pas, laissez-le. Il avait adopté le costume des marchands. Un pantalon bouffant avec des passementeries de soie, un gilet, une jaquette brodée d'argent, au cou un ruban de soie retenant une bourse. En hiver, il portait une pelisse fourrée, ou encore, par les beaux jours, un simple manteau de drap qu'il remplaçait en voyage par une longue douillette. L'été, dans les grandes chaleurs, il sortait en bras de chemise, avec cela de grandes bottes l'hiver, de souliers l'été. Il était d'une propreté rare, il ne souffrait même pas le plus petit grain de poussière sur ses vêtements, il l'enlevait tout de suite d'une chiquenaude. Marinko était un tout autre homme. De taille moyenne, blond, petite barbe, bavard et joyeux vivant, il ne fumait point, il était d'une force rare. Pas un seul du village ne pouvait lui faire toucher terre à la lutte. Pas un ne savait jeter la grosse pierre aussi loin que lui. Il ne faisait pas grand cas du commerce. Mais pour ce qui est de l'intérieur et des travaux de la maison, il n'avait pas son pareil. De même pour la culture. Il vous creusait un sillon droit comme un nid. Il jetait les semis si bien que ça poussait partout au cidru. Mais c'est tout ce qu'il savait faire. Il vous abattait un chêne, le mettait en pièces à lui seul, et n'appelait Marco que pour en charger les morceaux sur une voiture ou les faire plus minces. C'était un don du ciel. Il respectait Marco et lui obéissait. Il n'aurait jamais osé faire la moindre chose sans consulter l'aîné. Et pourtant, ce dernier, il le savait parfaitement, n'avait cure de la maison. « Petit père, » disait-il. « Je t'écoute, » répondait Marco. « Si je sevrais les petits pourceaux, qu'en dis-tu ? » « Oh, sevre-les, Marinko. Mais où les mettre ? Oh, où tu voudras ? » « Dans la vieille écurie, hein ?»« Oh, le vin pour la vieille écurie, » répondait Marco. Et l'affaire était réglée. Marco était sans enfant. Marinko en avait 4, 3 garçons et une fille. L'aîné des fils était déjà beau à marier. On lui cherchait un parti. C'est qu'il y avait guère de femmes dans la maison. Avec celle des 2 frères, seulement 2 cousines, qui ne voulaient plus entendre parler mariage, et de toutes petites filles. La famille observait les usages des anciens. On se levait de bonne heure, les femmes apportaient les opanqués, et on se chaussait. Ensuite, on se débarbouillait. Puis Marco allumait une bougie de cire fixée au mur. L'une des femmes lui présentait une soucoupe pleine de braises allumées, et il tirait d'un cornet de papier, dans un coin, 1 ou 2 grains d'encens, faisait le signe de croix, jetait le parfum sur le feu, commençait par en aspirer la fumée odorante et la faisait aspirer à chaque membre de la famille par rang d'âge. Enfin, il replaçait la soucoupe sur un banc et priait Dieu avec ferveur de lui conserver la vie, la santé et l'aisance. L'écolier, le plus jeune garçon de Marinko, récitait à haute voix le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. Ces 3 prières achevées, l'enfant et toute la famille s'inclinaient profondément et se signaient. « Dieu exauce notre prière, » disait Marco. « Ainsi soit-il, » répondaient les autres. Alors les plus jeunes s'avançaient et baisaient la main de Marco et de Marinko. Marco éteignait le cierge, prenait la gourde derrière la porte, buvait quelques gorgées, après un nouveau signe de croix, et la passait à Marinko. C'était le moment où les frères causaient ensemble et réglaient leurs affaires. Le soir, avant souper, même cérémonie. Après la prière, tout le monde, vieux et jeunes, se mettait à table. Alors Marinko faisait entrer en scène ses plaisanteries. Il taquinait son fils, l'écolier, que Marco avait adopté, disant qu'il deviendrait marchand, lui aussi. que les soins le tromperaient à son tour. Marco se contentait de sourire en défendant son neveu. Les deux frères vivaient dans les meilleurs termes avec les familles d'alentour et les autres paysans du village. On voisinait souvent, on rendait moins longues les veillées d'hiver, en chantant sur la goussla, en riant et en contant des légendes. Les paysans avaient déjà 3 fois choisi Marco comme Khmet, mais il avait toujours su trouver un expédient pour se tirer d'affaire. Quand on le serrait de trop près, il répondait « Bon, tout cela n'est rien qui vaille. Je veux vivre en bon terme avec les gens. Or, celui qui juge tout le monde ne peut être juste envers chacun. » Ainsi il vivait, mais ça ne dura pas longtemps. Marthe, la femme de Marinko, vint à mourir. La pauvre, Dieu lui pardonne ses péchés. C'était une rude femme, la prospérité de la maison. Ce n'est pas que je veuille dénigrer les autres femmes, certes non, frère, mais elle était si vaillante. Tout ce qu'elle faisait avait bon succès. Ce n'était pas un de ces caractères vifs comme on en voit partout, non. Figurez-vous, une femme habile à tous les métiers du ménage, une vraie taupe à la besogne. Mais voilà, elle mourut. Tous la pleurèrent, mais ce fut Marco, son beau-frère, qui la regretta le plus, à mon idée. C'est comme s'il avait pressenti ce qui devait arriver. Ils lui rendirent tous les honneurs. Marco fit venir 3 popes pour le service. Après les prières, il dit « C'était une brave femme. Elle m'a bien servi. Que Dieu lui pardonne. » Les femmes gémissaient, les enfants pleuraient. Marinko baissait la tête. Il avait perdu une amie. Ils revinrent tous à la maison. Tous sentaient le vide qu'avait fait la mort. On s'efforçait bien de causer, même de sourire, mais malgré tout, chacun sentait un froid au cœur. Marinko était le plus à plaindre. Alors n'allez pas croire qu'il n'eut plus personne pour le servir, non. On lui obéissait tout comme auparavant. Mais voilà, il n'avait plus sa femme, son ami, et il n'était pas habitué à cette absence. Rien n'est comparable à une amie. Père, mère, frère, sœur, enfant, tout cela ne compte plus quand l'ami a disparu. Oh, je dis ce que l'on voit dans la vie. Il y a des choses que tu n'oses confier à aucun des tiens, pas même à toi-même, mais tu les dis à ta femme, à ton ami. Voilà du moins comme nous sommes, nous autres paysans. Marinko était devenu muet. À la veillée, le sourire ne voltigeait plus sur ses lèvres. Il restait toujours sombre et soucieux. Son frère cherchait à le consoler. Inutile. Et comment le consoler? Il n'y a pas de consolation possible contre la mort. C'est tout autre chose quand vous avez à la maison un malade à qui un homme à la langue bien pendue s'en vient dire. Mais n'aie pas peur, j'ai vu des gens bien plus malades que toi, ils en sont revenus. Reprends alors courage, le cœur bat plus vite. Mais quand tu embrasses un front glacé, il n'y a plus rien. Alors l'homme réfléchit et réfléchit, puis il sent combien il a perdu. Marinko devenait chaque jour plus morose, plus triste. Personne n'était capable de lui faire desserrer les dents. Il cherchait toujours à s'isoler. Il évitait les gens. Il fuyait même les femmes de la maison. Il s'arrangeait pour vivre à côté des vivants. L'aîné était bien perplexe. Un soir, il appela le malheureux dans sa chambre. « Mais qu'as-tu ? » demanda-t-il. Marinko ne répondit pas. « Est-ce que tu tombes en enfance ?»« Non, mais que veux-tu ? » « Oui, je sais que tu es malheureux, mais pourquoi ne te remaries-tu pas, frère ?» « Voilà le malheur, » répondit Marinko. « Je me remarierai bien, mais j'ai peur de tomber sur une diablesse de femme. »« Tu es un homme, tu n'es plus un enfant. »« Sans doute, mais... »« Mais le bateau vient à bout des cabrines d'une femme, observa Malenko. Ne serait bien dur d'avoir à bâtonner une femme. D'ailleurs, le diable en jupon se moque de la trique. Bon, fais donc bon comme bon te semble. C'est bon, je dis que tu as tort de vivre comme tu le fais maintenant. Malenko sortit de la chambre de son frère, plus triste encore qu'il n'y était entré. Que faire, pensait-il. Ça va pas comme cela, je le vois bien. Mais autrement, ça pourrait être pire encore. Amener quelques malheurs sur cette maison et éteindre le fouillet que mon aïeul a allumé. Oui, pourtant, il faut que je me remarie. Je peux pas rester comme un vieux garçon. Chicha m'a dit qu'il y a une brave veuve à K. Il faut que je la voie, puis à la grâce de Dieu. Si elle veut me faire quelques sottises, je prendrai la trique. Après quelques bleus sur la peau, elle s'avisera plus de recommencer. Et mais les enfants, qu'en faire? Me trouverai bien une camarade, mais une mère pour mes enfants, c'est difficile à rencontrer. Oh mon Dieu, que de peine tu m'as apporté en me prenant Marthe. Mais à quoi bon se plaindre? Il n'y a rien à faire, rien à dire, absolument rien. D'ailleurs, ce ne sera peut-être pas aussi terrible que je le pense. Moi non plus, je n'ai pas jeté la pierre au bon Dieu. Le bonheur d'autrefois reviendra. Le ciel le veuille. Seulement c'est Stritten qui m'inquiète. Ce n'est encore qu'un petit écolier. Mais Marco ne me permettra pas qu'on le tourmente, je ne suis que son père naturel. Marco est son père d'adoption. J'ai honte de moi-même. Est-ce que je ne suis pas capable de tenir tête à une femme? Est-ce que celle-là, maintenant, viendrait à me saler la cervelle, lorsque personne n'y a réussi dans mon jeune temps? Oui, mais alors j'avais Marthe. Marthe était une honnête femme, elle n'aurait jamais songé à mal faire. Et les femmes d'aujourd'hui. Je veux vous aller tuer toutes ces sorcières qui ne font que jeter des sorts sur les pas des hommes. Il n'y a pas que les vraies sorcières pour faire cela. Toutes les femmes d'aujourd'hui savent en sorceler. Tout le monde est devenu un vrai sabbat. Mais il n'y a pas à dire. Ce qu'il faut, il le faut. Au petit jour, j'enverrai un des enfants appelé Chicha pour tenter la chance. Ô Seigneur, je t'implore, ne permets pas, Seigneur, que je tombe sur une méchante femme. Aie pitié, Seigneur, de mes pauvres enfants d'orphelins. Donne-leur une bonne mère. Tu tiens notre sort entre tes mains. Dessis mes yeux, que je distingue le mal. Je t'en supplie, Seigneur. Cette prière calma un peu son agitation. Il se coucha et s'endormit, comme s'il avait battu en grange tout le long du jour. Le lendemain matin, après la prière en commun, il envoya un de ses enfants chercher Chicha. « Qu'y a-t-il ? » demanda Marco. « Je te le dirai plus tard. »« Ah oui, je me rappelle. Où allez-vous ? » ?»« Aka. Ah bon, allez, allez !» Le grand jour commençait à luire quand Chicha arriva. Ils burent quelque chose, attelèrent les chevaux et partirent. Malenko ne rentra qu'à la nuit, assez tard. Il trouva sa belle-sœur Jelka toute seule, filant près du feu. « Le petit père dort-il déjà ? » demanda-t-il. « Non, je ne crois pas. » Il entra dans la chambre de Marco. Celui-ci s'était couché en l'attendant. « Alors, qu'y a-t-il ? » ?»« Ça va bien. » « L'as-tu vu ? » ?»«
Oui. »
« Alors quand irons-nous demander sa main ?»«
Samedi. » »«
Parfait. » Marco, Malenko et Chicha se rendirent à K le samedi suivant chez les Miletich et conclurent l'affaire. Au retour, Chicha étant resté un peu en arrière, Malenko poussa son cheval vers Marco et lui demanda « Qu'en penses-tu ? »
C'est une belle femme. »
Et après,
elle porte bien la toilette.
Mais c'est tout ce que tu as à me dire. demanda Marinko, presque d'un ton de reproche. Bon, il y a encore autre chose, je te le dirai plus tard.
Non, tout de suite, tout de suite.
Eh bien, elle perdra notre maison. Les cris et les réjouissances cessèrent comme toute chose en ce monde. Les invités à la noce partirent, les gens de la maison restèrent seuls. Marco ne s'était pas trompé en disant de Pauline, c'était le nom de la nouvelle mariée, qu'elle était belle et coquette. Une belle femme, certes. On aurait su dire ce qui était le plus beau en elle. Ses yeux noirs ou ses sourcils de jais et brillants qui s'allongeaient comme des sangsues, ou son front élevé, blanc comme une feuille de papier, ou bien ses lèvres sur lesquelles on croyait voir fleurir les roses, ou sa taille, ou l'air imposant avec lequel elle marchait et parlait. Même sous des haillons, elle aurait été belle et agréable aux yeux. Mais, si belle qu'elle fût, elle était du double encore plus coquine. Marco l'avait bien deviné. D'ailleurs, il ne s'était jamais trompé sur le compte de quelqu'un après l'avoir regardé dans les yeux. Et pourtant, il était guère facile à un homme de la deviner et de sentir ce qui se passait dans son âme en la voyant si douce et si souriante. Elle travaillait et tenait la maison comme si sa mère venait pour la première fois de la donner en mariage. Elle rangeait, elle nettoyait, ses blanches mains volaient comme portées par des ailes. Elle était douce envers tout le monde. Elle habillait les enfants, elle les tenait propres. Elle était dans les meilleurs termes avec les autres femmes de la maison. Il n'y avait que Marco qu'elle évitait. Elle sentait que l'œil de celui-ci voyait clair dans son âme. Marco était fort embarrassé. Il n'avait jamais autant plaint Marinko. Mais du même temps, de son veuvage, il le plaignait maintenant jusqu'à pleurer sur son sort. Et Marinko, son ancienne gaieté était revenue. Il avait retrouvé ses bons mots d'autrefois. Il déridait tout le monde à la veillée. C'était Pauline qui lui donnait cette vivacité, cette bonne humeur. Mais ça ne dura pas longtemps. Peu à peu, Pauline se départit de ses bonnes qualités. C'était une besogne qu'elle laissait inachevée. C'était un mot un peu vif qui tombait de ses lèvres. Marco le remarqua. Les autres femmes le remarquèrent. Mais Marinko ne s'en apercevait pas. Elle était pour lui toujours aussi aimante, aussi bonne et aussi gaie. Même quand on lui avait dit quelques duretés, elle savait patienter. Marinko était fou de ses charmes et de son bon caractère. Le soir au lit, oh, c'est presque honteux même à raconter, elle le caressait, le flattait comme s'il eût été un garçon de 18 ans. Et lui, il écoutait tout cela avec plaisir. Mon Dieu, mon Dieu!
Mon petit Marco! Ma petite Paulette!
Ma foi, oui, c'est ainsi qu'ils s'appelaient l'un l'autre.
Ah, je ne t'ai pas raconté ce qui s'est passé aujourd'hui.
Quoi donc?
Bien, je causais avec Jelka quand le maître est entré.
Oh, de quel air méchant il m'a regardé!
Je fais tout pour lui plaire et cependant il me déteste. Pourquoi?
Comment veux-tu que je le sache, ma Paulette? Quand nous sommes allés te demander en mariage, j'ai voulu savoir si tu lui plaisais. Et il m'a répondu que tu ruinerais notre famille. Le sang lui monta à la tête. Elle resta un moment interdite, puis éclata en sanglots.
Mais pourquoi a-t-il dit cela de moi? Que lui ai-je fait?
Et elle repoussa Marinko de la main. Marinko sauta en bas du lit. Il la caressait, lui demandait pardon, l'embrassait, en s'emportant contre Marco.
Mais de quoi s'occupait-il, celui-là? Pourquoi m'avoir dit cela? Tu as bien raison de dire. Quel mal lui ai-je fait?
Et Pauline se réjouissait du fond du cœur, se riant de son écervelé de mari qui savait si bien la justifier. Marinko criait et faisait le diable à quatre. Elle affectait de chercher à le calmer. Elle disait comment elle était prête à se lever sur l'heure, à se jeter aux pieds de Marco pour implorer les bonnes grâces de ce dernier, et que s'il n'y réussissait pas, elle quitterait tout de suite cette maison où elle était haïe pour ne point brouiller les deux frères. Marinko était comme un fou. Il se brisait la poitrine à hurler qu'il ne permettrait à personne d'attaquer sa femme. Qui n'aime pas ma femme ne m'aime pas non plus. Je mangerai toujours mon pain avec ma femme quand ce serait dans la mer des glaces. Elle le calmait, l'apaisait avec ses douces paroles et disait en même temps combien ils seraient heureux tout seuls à eux deux s'il n'y avait là aucun tiers. Mais elle le suppliait, pour l'amour de la maison et par respect pour les anciens, de ne point frapper son frère. « Je veux essayer de le fléchir, et si je ne réussis pas, eh bien, nous ne serons pas alors longtemps sans nous séparer. » Ainsi, chaque soir, chaque nuit, tant et si bien que Marinko lui-même finit par détester Marco. Toute son amitié passa sur Pauline. Il regardait l'aîné d'un œil froid, souvent méchant. Ce dernier le remarquait, mais il faisait semblant de ne pas le voir. Il ne voulait souffler mot à Marinko, mais tout son cœur se soulevait contre cette femme qui savait si bien le brouiller avec son frère. « L'abattre ? » pensait-il en lui-même, « qu'elle aille plutôt au diable. Est-ce que je m'en vais me mettre une affaire sur les bras pour une mégère de cette sorte ?» Elle lui l'imbécile, elle est tellement aveuglée que je ne trouverai pas de mots pour lui montrer combien elle est méchante. Que faire, ah, Marinko, malheureux fou à cheveux gris? Mais je lui ferai affront. Il n'aura pas le courage de me regarder dans les yeux. Et elle, oh, elle, je veux. Il ne pouvait se présenter une foire dans les environs sans que Pauline n'y courût. Marinko lui allait rarement. Marco, de son côté, n'y assistait que pour ne pas laisser les enfants tout seuls. Il souffrait de voir comment Pauline faisait courir les voitures et accaparait l'attention de tout le monde jusqu'à celle des garçons. Il remarquait bien les regards qu'elle échangeait avec ces derniers. Il s'en réjouissait en même temps. Voyant combien elle raffolait des foires, il changeait au moyen de l'humilier le plus possible. Survint la fête de la naissance de la Vierge. Il y a foire ce jour-là sur la place de l'église d'eau. Marco fit ses préparatifs pour y aller avec les enfants et invita le vieux Jean Balchalovitch à faire la route avec eux dans la même voiture. Pauline se prépara, elle aussi, et revêtit le costume que portent seules les femmes de Pandelitch. Elle ajouta même un collier de ducat qu'elle avait d'abord bien savonné dans l'eau tiède pour rendre les pièces encore plus brillantes. Mila et Stena, les enfants de Marinko, firent également toilette. Ils devaient être du voyage. Marco attendait que tout fût prêt, assis à l'ombre d'un arbre, en compagnon de Jean Baldalovitch et de Marinko. Devant eux, une cruche de vieux vin. Ils causaient. N'oublie pas, Milord, de remplir de vin la chouroua. Elle est toute pleine. La voiture était prête, les chevaux attelés et retenus par Milan. Allons, prenez place, dit Marco. Le vieux Jean se leva et s'avança avec les enfants. Pauline parut. Oh, nous allons être bien nombreux dans la voiture, remarqua le vieux Jean. Bien quelqu'un qui ne montera pas, répondit Marco. Milan, Stana et Pauline se regardèrent. « Allô, Stana, allô, Jean, asseyez-vous. Milan, tiens, ferme les rênes et assieds-toi. » Ce disant, Marco fit le signe de croix et s'assit à son tour. « Et moi ?» demanda Pauline. « Toi, oh, tu vas garder la maison, » répondit Marco d'un ton tranchant. La voiture disparut. C'en était trop. Pauline resta pétrifiée. Marinko aussi, les femmes aussi. On lui dit autant de statues. Personne ne s'attendait à cela. Pauline, à demi-folle, n'avait plus la force de penser. Quand elle fut un peu revenue à elle-même, elle courut à sa chambre, se jeta sur le lit et se mit à pleurer. Ses larmes étaient vraies. Elles tombaient drues, comme des gouttes d'eau. Marinko vint à elle et lui toucha l'épaule du doigt. Elle le repoussa d'un geste brusque et lui cracha en plein visage. « Mais que la honte t'écrase » cria-t-elle. « On t'a insulté. Et tu es un homme, toi ? Ou tu es resté là, tranquille, le regardant me repousser de la voiture comme un chien ?»« Mais Pauline, silence ! Je n'ai pas de mari. Je vais retourner au mien. On saura que je suis une malheureuse femme. Et écoute, ne t'ai-je pas dit de te taire ? » l'interrompit-elle durement. « Qu'est-ce que tu veux dire avec tes Pauline, écoute ? Je n'écoute rien, mais je vois comment vous m'insultez. Dieu puisse vous le rendre. Entre, entre librement dans la maison des Pantelitch, elle est ouverte à tout le monde. Voilà ce que vous disiez auparavant. Vous êtes des aveugles et rien de plus. Que la foudre vous écrase tous !»« Je ne veux plus manger mon pain avec lui !» s'écria Marinko. « Il y a longtemps que tu ne mangerais plus si tu étais un homme. Esclave, va. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne vis pas. Tu obéis, tu peines et tu travailles. Et moi, ta femme, quand je veux te présenter dans ma voiture, moi, en grande toilette, on me chasse pour amener un vieux bonhomme. Oh, mon Dieu, est-ce que tu vois cela ?
Mais je te dis que j'agirai maintenant.
Qui ça, toi ?
Oui, moi,
jamais.
Si, je le jure devant Dieu.
Bien, mais nous verrons.
Tu verras.
Sur ce dernier mot, Marinko sortit de la chambre et se mit à marcher par la cour. Voyant que tout le monde de la maison le regardait curieusement, il rebroussa chemin et rentra dans le verger. Il avait terriblement à cœur l'action de Marco. Lui, Marco, offensait ainsi sa femme. Oh, il n'aurait jamais cru cela. Et c'était pourtant arrivé. C'était arrivé devant ses yeux, à sa barbe. Voilà ce qu'il ne pouvait endurer. Il n'avait plus qu'à se séparer de son frère. Il songea alors comment il lui parlerait. Car il voulait dire à Marco des mots qui le feraient souffrir, qui l'amèneraient à demander pardon. « Je ne veux plus rien savoir de la recommandation de l'ancien, qui ne voulait pas que nous nous séparions, pensait-il. Alors je veux rien entendre. Non, quand même il se mettrait à mes genoux, je veux me venger. Tant pis s'il en crève. J'entrerai tout gentiment dans sa chambre sans même un « Dieu te soit en aide, Marco. »« Que veux-tu » demandera-t-il. « Ben, je veux plus vivre en Zadruga avec toi. » Je veux plus que nous mangions notre pain ensemble. Tu es mon ennemi, tu veux me perdre, bien, puisque tu as agi ainsi, je ne veux plus vivre avec toi. Voilà comment je lui parlerai. Puis j'appellerai des gens et nous partagerons le bien. Et s'il résiste, nous irons devant les juges. S'il crève, que m'importe. Il n'est pas habitué au travail, il avale le rôti sans savoir d'où il vient. Qu'est-ce qui te nourrira quand je serai parti ? Mais que m'importe, qui s'arrange avec son commerce. Tu n'auras rien à te mettre sous la dent, petit frère, sans cracher dans tes mains. Il continua sa marche, poursuivant les mêmes pensées. Il s'arrêtait parfois en faisant des gestes, et ainsi de suite. Le soleil devenait moins ardent. Un souffle léger lui apportait les parfums de l'automne et rafraîchissait son front brûlant. À ce moment, la voiture rentra dans la cour. Il aperçut au travers du verger. Marco se tenait seul à l'arrière. Le vieux Jean avait dû descendre en route. Marinko pressa le pas et il passa près des enfants sans les voir. Pauline, debout devant la porte de sa chambre, lui fit signe de l'œil que Marco était rentré. Il entra, lui aussi. Il alla à la chambre de Marco en traversant le groupe des femmes. Il ouvrit la porte. Marco se tenait à la fenêtre et regardait dans la cour. À l'entrée de Marinko, il se retourna et regarda d'un air interrogateur. Marinko baissa la tête devant ce regard. Il reprit enfin courage. « Marco, qu'y a-t-il ?
« Je suis venu. »«
Ben, je le vois bien. Que veux-tu ?
Je... »
commença à balbutier Marinko, les cheveux hérissés. « Je veux me séparer. »
« Te séparer ? »
« Oui. »
« Tu as bien réfléchi ? »
« Oui. »
« Tu sais ce que l'ancien a recommandé ? »
« Oui, je le sais. »
« Il a dit que nous ne devions pas nous séparer. »
« Oui. »
« Et tu veux tout de même me quitter ?»«
Oui, je le veux. »
« Et moi, je ne le veux pas. »«
Que m'importe ?
Tout cela pour une méchante femelle. »
« Mais c'est ma femme. »«
Marinko, nous sommes frères. Il n'y a pas dans le village de maison plus vieille que la nôtre. Tu ne feras pas cela. »
« Mais c'est à toi la faute, » répondit Marinko.
« Ah oui, parce que je ne l'ai pas emmenée à la foire. »«
Oui. »«
Mais qu'avait-elle besoin à la foire ?»«
Mais du moment que je n'y allais pas, elle avait le droit d'y aller à ma place. »«
Mais ce n'est pas une honnête femme. »
Marinko le regarda fixement.
« Pas un mot de plus, » répliqua-t-il sourdement, « sinon nous nous battrons. »
« Je ne le dirai pas si c'était la vérité. »«
Mais peu m'importe, c'est ma femme, elle est ce qu'elle est. »«
Je n'aime pas les gens malhonnêtes. »«
Mais garde pour toi ton honnêteté. »«
Nous ne nous séparons pas si facilement que cela, » cria Marco.
« Mais si nos gens ne parviennent pas à nous séparer, il y a les juges. »«
Frère, je t'en supplie. »«
Trop tard.
Songe à l'ancien. »«
Non, d'ailleurs une saloga ne peut pas durer un siècle. »« Si tu étais un homme, nous n'en serions pas là. »« Demain, je ferai venir le Kmet et quelques voisins. »« Puis ce sera fini. »
Ce disant, il sortit. Marco vit où les choses en étaient. Il y réfléchit beaucoup. Mais que faire? Comment écarter le péril? C'était sa grande préoccupation. Supplier son frère, il l'avait déjà supplié. Lui commander, il ne voudrait pas obéir. Et la recommandation de l'ancien? Il baissait la tête, plongé dans ses pensées. Cependant, Marinko racontait tout à Pauline et celle-ci l'excitait à tenir bon. Le jour vint. Marinko se rendit à la Mehana, trouver le Kmet et quelques voisins. Il raconta à tous et à chacun ce qui s'était passé, avec le pour et le comment. Le bruit que les Pandelitch allaient se séparer courut un instant par tout le village. Hommes, femmes, enfants, tout le monde en causait. Les envieux jubilaient, disant « Allons, allons, la citrouille finit par éclater !» Le soleil était d'une longueur de lance déjà au-dessus de l'horizon, lorsque Marinko sortit de la Mehana avec le Kmet et quelques autres paysans. Le cortège se grossit en foule. En arrivant à la maison, il remplit la cour. Une vraie fourmilière. Marinko racontait l'histoire à tout le monde, d'un bout à l'autre. On l'écoutait. Quelques-uns l'approuvaient, beaucoup l'encourageaient dans son idée. Le pape arriva. « Bonjour. Dieu t'aide et te bénisse, père.
Dieu vous bénisse.
Qu'y a-t-il chez vous, Marinko? Que faites-vous là, vous autres?
Ben voilà ce que c'est, pope. »
« Nous allons nous séparer, Marco et moi. »«
Vous séparer? Mais vous n'avez pas de raison pour cela. »«
Il le faut. »
En ce moment, on cria.
« Voici Marco! Voici Marco !»
Tout le monde se tut. Marco sortit de la maison, tête nue et blême. Il regarda la foule et cria. «
Mais que veulent ces gens-là? » Le Khmet commença à frapper la terre de son bâton.
Ben, c'est Barinko qui nous a fait venir, dit-il.
Pourquoi ?
Ben, tu le sais bien pourquoi, Dieu merci, répondit durement Barinko.
Ben, je ne le sais pas.
Eh bien, je veux me séparer.
Oh, c'est pour cela.
C'est pour ça, oui.
Mais n'as-tu pas honte, malheureux, de faire avec les cheveux gris ce que tu n'as jamais fait étant jeune? N'as-tu pas honte?
Mais c'est, je veux me séparer, rien de plus.
Bien, répondit Marco en rentrant dans la maison. Il ressortit d'un instant après, les deux pistolets d'argent du vieux Pantélis dans ses mains. Arrive ici, frère. Marinko approcha.
Tu veux te séparer? Lui demanda-t-il d'une voix si forte qu'elle retentit par tous les coins de la cour.
Oui.
Tiens.
Et il lui tendit un pistolet. Marinko prit l'arme.
Allons maintenant, cria Marco.
Quoi?
Ben, séparons-nous.
Et il dirigea son pistolet sur Marinko.
Marinko pâlit. « Mais je ne veux pas me séparer ainsi, dit-il. »«
Mais comment veux-tu faire ?»«
Je veux que nous partagions tranquillement notre bien. »«
Oh, ce bien-là n'est pas partagé. »« Allez, ainsi donc, dépêche-toi. »«
Nous sommes frères, nous avons été portés dans le même sein, nous ne devons pas être étrangers l'un à l'autre. » « Ce que nous avons appelé nôtre ne s'appellera jamais mon et ton, mais toujours nôtre. »
Ses paroles éclataient comme des coups de foudre, ses regards étaient autant d'éclairs.
« Mais je ne veux pas me séparer de cette manière-là. »«
Et moi, je le veux. »«
Et si tu refuses, rappelle-toi bien que tu ne te sépareras jamais. »«
Allez, tire, frère, tire. »«
Si tu me tues, viens ensuite à ta guise. »
Si je te tue, je me tuerai ensuite.
Puisque les bonnes paroles ne servent de rien avec toi, il faut bien que je défende par les armes l'ordre de l'ancien.
Marinko laissa tomber à terre son pistolet et sauta au cou de Marco, l'embrassant et le serrant sur son cœur. Tous les assistants éclatèrent en sanglots.
Oh, frère, je t'en supplie, pardonne-moi.
Sanglota Marinko.
Dieu nous pardonne à tous deux, répondit Marco à travers ses larmes. Et elle, maudite soit la mère qui l'a mise au monde, je lui arracherai le chignon.
Si tu l'avais fait plus tôt, nous n'en serions pas venus là.
Ne m'en garde pas rancune, petit père.
Dieu m'en garde. Les voisins regardaient attendris. Les larmes coulaient. Le peuple priait. Les gens de la maison s'embrassaient en sanglotant, et le Seigneur, du haut du ciel radieux, bénissait la concorde établie entre les deux frères.